Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, c'est l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Schwartz pour son tout nouveau livre fascinant Shushani aux éditions Hermann. Bonsoir Sandrine Schwartz.
Bonsoir Pierre, je suis ravie de cette introduction déjà.
Alors vous êtes, je le dis pour nos auditeurs, hein, docteur en histoire moderne et contemporaine, diplômé de la section des sciences religieuses à l'école pratique des hautes études, vous êtes chercheuse, le renouveau de la pensée juive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est au cœur de vos recherches. Votre précédent ouvrage était consacré à Eliane Amado-Lévy Valency, toujours aux éditions Hermann. On l'aura compris, au travers de ces deux livres, c'est ce qu'on appelle l'école de Paris, qui à chaque fois le fil rouge, le décor, la base des éclairages sur des femmes et des hommes qui ont marqué le renouveau de la pensée juive après la Shoah. L'école de Paris, c'est le foisonnement de la lumière après les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale. On peut citer Emmanuel Levinas, Léon Ashkenazi, Eliane Amado-Lévy Valency, André Néer, Henri Atlan et tant d'autres. Trois hommes inspirent l'école de Paris, qui chacun d'ailleurs auront des disciples, Jacob Cordine, Joseph Gottfarstein et Shushani. Mais qui est Shushani ? À la fois très présent et toujours absent, il apparaît puis disparaît du jour au lendemain, il donne ses cours allongés sur une table, sans aucune note et aussi sans réelle pédagogie. On assiste à ses cours dans un premier temps plus pour le côté iconoclaste de sa méthode que pour le fond, et pourtant Emmanuel Levinas et Elie Wiesel en feront leur maître. Alors pourquoi avoir choisi de mettre en lumière Shushani qui voulait tant rester dans l'ombre ?
Déjà, je suis scotchée par cette introduction puisque vous résumez parfaitement et la thématique de mes recherches et le pourquoi de l'intérêt de mes recherches. Alors, Monsieur Shushani, c'est une figure énigmatique, légendaire, qui traverse...
Mythique, hein, on peut même...
Mythique, tout à fait, mythique. On se demande même s'il a existé, certaines personnes se demandent s'il a existé, certains l'appréciaient beaucoup, d'autres trouvaient qu'il était trop marginal, à la fois pour entrer dans les études juives, pour être un penseur juif et surtout pour s'y intéresser. Et donc Shushani est un peu en filigrane de mes recherches, puisque quand on s'intéresse à ces grandes figures de l'école de Paris, on s'aperçoit qu'il est souvent présent. Emmanuel Levinas, vous l'avez dit, est une figure sans doute la plus emblématique de cette école française de pensée juive, et il a donné la pleine mesure de cette pensée au célèbre colloque des intellectuels juifs de langue française, qui avec l'école d'Orsay fonde et illustre l'école française de Paris. Et chacune des interventions d'Emmanuel Levinas, qui sont des leçons talmudiques, débutent par une sorte d'avertissement en disant qu'il a un petit peu honte, qu'il est un petit peu gêné de proposer ces leçons talmudiques. En regard de son maître, il n'est pas grand-chose. Nous sommes en 1957, bien après la libération et surtout bien après ses premières recherches sur la parution de sa thèse de doctorat, sur son introduction en France de la phénoménologie husserlienne. C'est un philosophe qui n'a plus rien à prouver et pourtant il se sent bien en retrait par rapport à ce monsieur Shushani. Et donc, trottait dans l'esprit l'idée qu'il fallait que je m'intéresse à ce fameux personnage qui était resté une énigme. Et finalement, en m'y penchant, alors au début, c'était presque de l'anecdote, et en m'y penchant, je me suis aperçue, comme vous l'avez dit, que de la même manière que Jacob Gordin ou Joseph Gottfarstein, il avait été un des initiateurs de ce renouveau de la pensée juive après la Shoah.
Alors, difficile hein, de définir Shushani, c'est un homme à l'aspect extérieur extrêmement négligé, on parle de lui comme d'un clochard, mais d'une intelligence hors du commun. Léon Ashkenazi, dit Manitou, disait de lui « J'ai eu le privilège de le connaître, il aimait mettre les gens dans sa poche, il était d'une science faramineuse et d'une mémoire impossible, et vraiment une intelligence hors du commun, au point que je me demande s'il était un homme ou autre chose. C'est pour vous dire, dit Manitou. »
Manitou disait aussi, on disait à Strasbourg qu'il était 50% génial et 50% fou, et moi je dirais il était 100% fou et 100% génial. Et c'est tout résumé le fil de ce personnage mythique, comme vous l'avez dit, ou légendaire. Il était tout et rien à la fois, c'est-à-dire que rien que pour ses origines, il avait un accent lituanien quand il parlait yiddish à couper au couteau, mais lui disait qu'il venait du Maroc, ou parfois d'un ashram au Tibet, ou d'autres régions qu'il avait traversées. Exactement. Il était sans doute pauvre, mais donc il avait l'allure d'un clochard, hein, toujours les mêmes vêtements, il ne se changeait quasiment pas, il sentait mauvais, il volait, il crachait, mais en même temps certains disaient qu'il était riche. Elie Wiesel, quand il ouvre une de ses valises, puisqu'il avait toujours un petit bagage où il mettait le monde, qui contenait son petit monde à lui, eh bien il y avait de l'argent, des devises, etc. Donc il était tout et son contraire. Est-ce qu'il était pieux? Est-ce qu'il ne l'était pas?
Alors, ce qui ressort de votre livre, c'est qu'on voit que il n'était pas orthopraxe, c'est-à-dire il pratiquait pas. Après, il a une relation avec Dieu très particulière. Hein. Il y a un passage sur Israël qui est assez intéressant, parce que il dit, on lui dit, mais Israël, c'est un miracle. Et lui dit, ah non, c'est pas ça un miracle. Un miracle, c'est pas ça, parce que sinon, il y aurait pas eu 6 millions de morts et machin, et il aurait fallu que ce miracle arrive plus tôt pour que c'en soit.
Il y a plusieurs fils conducteurs dans la pensée de Shushani. Ce que j'ai tenté de montrer, c'est qu'il s'est retrouvé à la libération entre 1945 et 1952 à Paris, et ce n'était pas par hasard. Il était dans les endroits du monde où la pensée se faisait, se défaisait. Il était à Berlin dans les années d'après-guerre, il était à Paris quand Paris était un centre incroyable de la pensée, il s'est retrouvé à Jérusalem avant la Première Guerre mondiale auprès du Rav Kook, il était aux États-Unis à un autre moment, il était en Afrique du Nord également. Donc Shushani était partout où on ne l'attendait pas, mais en même temps où les choses se passaient. Il y a au moins trois fils conducteurs dans sa pensée. Sa naissance à Brisk, puisqu'on sait maintenant, hein, c'est confirmé par les recherches généalogiques que j'entame dans ce livre, que son vrai nom était Hillel Perelman, qu'il était né le 9 janvier 1895 à Brisk, autrement dit Brest-Litovsk, et il naît dans un contexte, celui du judaïsme brisker. Ce judaïsme brisker, inspiré par le Rouf Brisker, le Rav Soloveitchik, est particulier, avec évidemment une connaissance encyclopédique des textes de la tradition juive, mais aussi l'importance de savoir ce qui se passe autour, ce fameux Occident, cette culture générale qui est importante, et les mathématiques. Et c'est le sens même des enseignements qu'il fournira à ces grands penseurs dans l'après-guerre. Il y a un autre élément important, c'est la Kabbale. Cette cabale qui irrigue ses enseignements, et cette cabale aussi qui fait parfois, eh bien, être sur le fil au niveau de la pratique religieuse. De nombreux kabbalistes parfois allaient tellement loin qu'ils avaient des libertés, hein, par rapport à la mitzvah. Et Shushani en fait partie. Alors, est-ce que c'est pour ça ou est-ce en raison de son profil psychologique? Et puis l'autre point aussi que vous mettez en avant, c'est ce fameux sionisme qui n'a pas été vu par ceux qui se sont intéressés par Shushani, mais de sa naissance à sa mort, eh bien le sionisme religieux irrigue sa vie, ses itinéraires de ses étapes, hein, et sa pensée.
Alors, Shushani connaît tout intégralement. La Torah, le Talmud, ses commentaires, les commentaires du Talmud, les commentaires des commentaires. Il connaît la Kabbale, on vient d'en parler, mais aussi les mathématiques, la physique quantique, le Coran, les traditions hindouistes, il connaît tout par cœur. D'ailleurs, il préfère Molière à Shakespeare. Socrate et Platon n'ont pas de secret pour lui. Et en cela, Sandrine Schwartz, il s'inscrit un peu dans la continuité des grands maîtres de la tradition juive. Vous l'évoquiez avec l'école de Brisk, que ce soit le Maharal de Prague, le Rabbi de Kotz, Raïm Lutzato, le Sforno ou encore Maïmonide, tous avaient, en dehors de l'étude des textes, des connaissances en mathématiques, en médecine, en astronomie ou en philosophie.
Tout à fait. Et peut-être qu'à une époque où il surgit, eh bien, ça paraît incroyable, hein, quand on est un penseur juif, mais ce n'était pas quelque chose d'assez exceptionnel. Cette méthode de partir des sources de la tradition juive pour les faire dialoguer avec toutes les autres connaissances et pour aboutir finalement à dire que la pensée juive n'est pas un particularisme, mais qu'elle fait sens dans le grand débat des cultures et qu'elle est un humanisme qui intéresse tout le monde.
D'ailleurs, le Maharal de Prague dit « La Torah contient toute la sagesse, toutes même les sagesses du monde ». Alors beaucoup ont pris au pied de la lettre cette phrase, se focalisant exclusivement sur l'étude des textes et rien d'autre. Or, même si certains deviennent des grands maîtres, ils ne sauront pas, par exemple, se servir d'une équation de Schrödinger en physique quantique ou comprendre la théorie des cordes en physique des grands ensembles et tant d'autres découvertes. Shushani, comme d'autres avant lui, a compris qu'au-delà des textes, il faut chercher ailleurs les étincelles de la tradition juive. C'est en étudiant, par exemple, la théorie des cordes que l'on comprend l'arbre des séphirotes dans la Kabbale. C'est en étudiant la physique des grands ensembles que l'on comprend la création dans la Torah. car pour créer l'univers, il fallait une intention. Et Einstein, d'ailleurs, qui l'a rencontré, l'a très bien démontré. Et d'ailleurs, les carnets qu'a laissé Chouchani en sont un parfait exemple. Il regroupe en fait toutes les connaissances dans toutes les langues pour apporter un nouvel éclairage au texte. Et c'est peut-être en cela que la phrase du Maharal de Prague prend tout son sens.
Alors tout à fait, il y a ces cahiers qui témoignent. Eh bien, alors ils témoignent de quoi finalement ? Certains ont cherché dans ces cahiers une vérité universelle ou un message caché qu'aurait pu délivrer Chouchani à l'entendement. Mais finalement, ces cahiers, et c'est ma théorie, ont été écrits par Chouchani pour lui-même, pour Hillel Perelman, cet enfant qui grandit pauvrement dans une famille plutôt modeste de Brisk, la famille Perelman, et il n'avait pas assez d'argent pour acheter des cahiers. À partir du moment où il avait eu un peu d'argent, eh bien, il a griffonné ces cahiers qu'il remplissait. Ces cahiers démontrent tous les domaines de la pensée auxquels Chouchani s'intéressait. Et les domaines sont vastes. Il y a évidemment de la pensée juive, il y a énormément de schémas mathématiques, de physique, d'optique, d'astronomie. Astronomie. Il y a des citations dans toutes les langues. Alors, quand Emmanuel...
Même en hébreu, pro-hébraïque.
Oui, du paléo-hébraïque. Du paléo-hébraïque. Alors, quand on disait qu'il parlait, c'est Elie Wiesel qui disait ça, une trentaine de langues sans accent, il en parlait, ou en tout cas, il en maîtrisait au moins 15 qu'il apprenait dans les dictionnaires grâce à son hypermnésie. Et ses cahiers démontrent que Chouchani, Hillel Perelman, était un esprit incroyable et qu'il était une sorte de Léonard de Vinci du 20e siècle, on y voit tous les domaines dans lesquels il s'est investi. De là à y voir des messages cachés, je pense que c'est un petit peu extrapolé.
Ouais. D'ailleurs, Elie Wiesel, qui a vu les cahiers, il s'est penché sur les cahiers de Chouchani et il a essayé de comprendre et il a abandonné.
Il a abandonné parce qu'en fait, nous, quand nous avons des cahiers aussi, nos cahiers de notes, on y met notre manière de penser. On va avoir des abréviations. Par exemple, Chouchani, pour parler de la Suisse, il mettait sa date de création. Mais comme tout le monde des diminutifs ou des petites choses, des abrégés pour pouvoir aller plus vite. Chouchani, voilà, c'était son esprit dans ses cahiers. Alors évidemment, on y voit des enseignements, on y voit les domaines qui l'intéressaient, mais de là à découvrir qu'il était quelqu'un qui avait laissé une énigme, je pense que on la trouvera pas. D'ailleurs, beaucoup s'y sont...
Vous êtes sûr de ça?
Je suis quasi sûr. Les cahiers aujourd'hui, de toute façon...
Ils sont en Israël,
ils sont à la Bibliothèque Nationale d'Israël, ils ont tous été numérisés. Quand on va sur le site, on peut les voir et peut-être que quelqu'un s'y penchera et trouvera. Alors, il faut vraiment avoir une connaissance précise de tous les domaines, parler plusieurs langues, parler les mathématiques aussi, mais peut-être que quelqu'un y découvrira. Alors, de ci, de là, des vérités, mais de là à découvrir, à mon sens, une vérité universelle, c'est un peu aller chercher loin. Il y a des cahiers à Paris aussi, le Rav Gronstein en possède, puisqu'au moment de sa disparition à Montevideo, le 26 janvier 1968, il était hors de question de laisser l'état des choses telle qu'elle, et donc une sorte de comité autour de Henri Nerson, qu'il avait connu à Strasbourg et qu'il avait présenté à Emmanuel Levinas, a tenté de donner des cahiers de ci, de là, pour y chercher ce qui se cachait dans la tête de Chouchani.
Alors, on disait au début de cette émission, c'est pratiquement un mythe, on ne sait même pas s'il a existé. D'ailleurs, on a pu dire de lui qu'il aurait pu être le Messie, qu'il aurait pu être un des 36 justes cachés, qu'il aurait même pu être le prophète Élie.
Voilà, beaucoup ont pensé ça de lui. Alors, ce qui expliquait aussi que beaucoup ont eu du mal à travailler sur le sujet, beaucoup ont eu du mal à citer ses enseignements de peur de le trahir, et beaucoup ont eu du mal aussi à enquêter ou à confirmer cette véritable identité. En tant qu'historienne, j'ai réussi à avoir ce recul qui m'a permis d'aller jusqu'au bout et d'enlever finalement toutes les scories de la légende, du fantasmatique, et en cela, dégager l'homme qui était Chouchani, un homme incroyable, profondément intelligent. C'est pas suffisant pour entrer dans la légende, mais il avait sans doute quelque chose de plus qui faisait qu'il était fascinant, et ce plus, c'est sans doute ce profil psychologique si particulier.
Alors, on va laisser de côté l'historienne que vous êtes, et on va s'adresser à vous comme détective. Alors, comment, une fois que vous avez posé le cadre, l'école de Paris, l'influence de Chouchani avec d'autres, comment vous vous êtes lancé dans cette aventure, et comment comment vous avez pu remonter les fils pour arriver à Hillel Pellerman?
Alors, la première partie, voilà, c'est ce Chouchani professeur qui est là à un moment précis et qui délivre des enseignements que peu peuvent citer, hein, puisque ses conférences étaient une sorte de spectacle de l'érudition où il faisait dialoguer des sources tellement multiples et variées, des connaissances de domaines tellement divers qu'il n'était pas facile et de prendre des notes et de pouvoir les restituer. Seul Emmanuel Lévinas infuse sa pensée de ses enseignements et on permet, grâce à lui, ses leçons talmudiques permettent bien de savoir quels étaient le fil de sa pensée. De même que Manitou cite des enseignements et que Elie Wiesel, lui, le romance et l'éloigne davantage de la réalité. Je suis partie d'un fil qui avait...
D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, hein, mais on reprend juste après. Manitou et Chouchani se brouillent. Hein, ça, alors, c'est marrant parce que Lévinas en fait un maître et il le cite tout le temps, et alors que Manitou, lui, de temps en temps, il en parle, mais on sait que certains enseignements de Manitou sont issus de ce que disait Chouchani, mais il le cite pratiquement plus, quoi.
Il le cite pratiquement plus, mais en revanche, les seules citations de Chouchani que nous n'avons, c'est-à-dire sous Chouchani dit que, deux points, ouvrez les guillemets, c'est Manitou qui les dit. Et c'est sans doute aussi grâce à ce recul qu'il a. Ceux qui étaient prisonniers de cette admiration n'ont pas pu le citer. Alors, je vais répondre à cette question et j'entamerai sur le reste, sur l'origine de ma recherche, sur la découverte de sa véritable identité. Manitou avait déjà rencontré Jacob Gordin, un maître ashkenaz, lui, qui venait d'Oran. Et en fait, Jacob Gordin a une méthode assez similaire à celle de Chouchani. Manitou était le premier élève, l'un des premiers élèves de la première promotion d'Orsay avec comme maître en matière juive Jacob Gordin. Donc quand il rencontre Chouchani au moment où il devient directeur, il a déjà été transmuté par ses enseignements d'Europe centrale et orientale. Quand il devient directeur, il veut les meilleurs professeurs. Et on lui déconseille Chouchani. Il assiste quand même à quelques-unes de ses conférences et il dit « je vais l'avoir comme enseignant ». Et pour plusieurs raisons, il rompra avec lui. La première, c'est qu'il ne le trouvait pas pédagogue.
Oui.
Ces jeunes de l'école d'Orsay, qui étaient assez loin finalement des sources de la tradition juive, c'était des étudiants brillants, il fallait quand même avoir un minimum de connaissances pour suivre les enseignements de Chouchani. Et Chouchani ne s'embarrassait pas de savoir si les élèves étaient à la hauteur. Et à la limite même, il les bousculait. Hein. Il pouvait même les violenter, les secouer par les épaules. Donc, ce n'était pas très pédagogique, la manière. Sur le fond, il allait tellement loin dans sa déconstruction, puisqu'il pouvait dire une théorie, le lendemain la détruire, le surlendemain redétruire les doubles théories, et finalement il restait un champ de ruines. Pour des jeunes qui étaient en construction, c'était pas évident. Après, il y a eu des affaires de mœurs. J'essaye d'en passer, de le dire assez rapidement. Chouchani, sa sexualité était un peu ambiguë, hein. On lui connaissait pas de famille, et il aurait été ambigu par rapport à certaines étudiantes de l'école d'Orsay. Et puis, dernier élément, Manitou, qui donnait une conférence à l'UEJF où il était vice-président et où il avait fait venir Chouchani pour donner aussi des interventions. Eh bien, Chouchani intervient à la fin d'une de ses conférences et il lamine Manitou. Il lui dit qu'il ne sait rien, qu'il est un idiot, qu'il s'est trompé, etc. Manitou en sort profondément versé. Et pour l'ensemble, et pour l'ensemble de ces raisons... Eh bien, il décidera de lui interdire l'accès à l'école d'Orsay. Après, il y a des tas d'anecdotes qu'on m'a racontées, notamment Henri Atlan, qui me dit qu'il a volé le Sefer Torah de l'école d'Orsay, etc. Donc, mis bout à bout, eh bien...
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup pour Manitou qui met ses réserves et qui lui empêche l'accès de l'école. Donc, mon enquête, elle débute comment? Elle débute par le fait que d'autres personnes se sont intéressées à Chouchani et que ce nom d'Hillel Pellerman avait fusé, notamment chez Shalom Rosenberg, qui était une des dernières personnes à avoir vu en vie Chouchani quand il était à Montevideo. Et il y a eu un moment des lettres du Rav Kook qui sont sorties, qui parlaient de son étudiant Hillel Pellerman, et on a pensé que ça pouvait être lui. D'autres personnes en ont parlé. Et donc j'ai voulu détricoter ce fil et remonter jusqu'aux archives cet Hillel Pellerman. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup des Hillel Pellerman. Quand on fait des recherches généalogiques, on voit qu'il y en a un seul, qu'il est né à Brisk, à Brest-Litovsk. Et puis, en découvrant qui est son père, Manès, sa mère, Feiga, sa sœur, Sarah, qui épouse un Osher Mintz, qui est un fils, qui est Meyer Mintz, qui deviendra rabbin Monsey aux États-Unis. Meyer Mintz que Elie Wiesel rencontre, et finalement, tout tourneront. Hillel Pellerman et bien Chouchani.
Ouais. D'ailleurs, une famille assez particulière. Hein. Un père qui en fait un peu un monstre de foire. Il le trimballe un peu partout, et il leur dit... enfin, il dit aux différentes communautés, regardez mon fils comme il est intelligent, il va vous réciter le Talmud, il va vous réciter machin, et il touche de l'argent par rapport à cette façon de montrer son fils.
Il exhibe son fils, fils qui est un enfant précoce, hein, qui a des tas de qualités qui sont entretenues aussi par les méthodes du judaïsme brisqueur du Cheder, où tout est appris par cœur. Ce truc de l'aiguille où Chouchani l'a fait beaucoup, hein, oui. Il s'amusait à le faire, où on plante une aiguille et Chouchani était capable de dire tous les mots qui étaient piqués, ou simplement de commencer de ce mot et de tout réciter jusqu'à ce qu'on l'interrompe. Alors c'est pas quelque chose qui est exceptionnel, puisque tous les enfants apprenaient comme ça des pages par cœur, la Guémara était de la même façon. Mais Chouchani avait ce truc en plus, cette précocité qui en faisait aussi un enfant très sensible, et le fait d'avoir su lire très tôt, sans doute à 3 ans, d'avoir su tous les textes de la tradition juive.
Certains disent d'ailleurs que ça serait l'équivalent de Mozart. Mozart pour les textes hébraïques, Mozart à 3 ans connaissait la musique, et bien Chouchani, lui, il connaissait tout.
Il connaissait tout. C'était un Mozart de la tradition juive, avec cette particularité des enfants précoces, une extrême sensibilité. Donc le fait d'avoir été exhibé comme une bête de foire l'a sans doute marqué. Quand il revenait chez lui, il avait ce point affectif qui était sa mère, sa Rose, sa Shoshane, sa Rosaine, et qui est décédée au moment de la naissance de son petit frère Kouziel. Et c'est à partir de là que sa personnalité explose, où il disparaît de Brest-Litovsk, où il est auprès du Rav Kook, et où il ne remettra plus les pieds dans sa famille originelle. On dit que son père était venu le voir quand il était aux États-Unis, mais il refuse de repartir avec lui.
Chouchane, la Rose, pourquoi avoir décliné son identité toujours autour de la rose?
Alors justement, c'est ce que j'explique. Finalement, le point de départ, c'est pas la rose. Le point de départ, c'est Suze. La première fois où il est Chouchani, il n'est même pas Chouchani, il est Chouchné. En yiddish, je le prononce très mal. Il est à Strasbourg, on est au début des années 1930. Il dort devant le porche de la synagogue de la rue Kaguenac et on lui demande comment il s'appelle. Et en gros, il dit, laissez-moi tranquille, je suis le premier juif, je suis le juif qui vient de Suze, je suis Chouchné, Chouchane en yiddish. Et donc, au début, à Strasbourg, il est Chouchné en yiddish, il est aussi Chouchana, et il deviendra quelques années plus tard Chouchani, Ben Soussan, Ben Soussan, mais le point de départ est la ville de Suze, et c'est pas pour rien que quand on lui demande son prénom, il dit Mordechai, comme dans la Megillah d'Esther, et encore une fois en lien avec la ville de Suze. Et il devient par capillarité, par association d'idées, celui qui est lié à la rose, Rosaine, etc., parce que il est sans doute cet enfant qui a été blessé par une mère disparue trop tôt, et que surtout il est un kabbaliste, et que dans la Kabbale, la rose aux 7 pétales est un symbole important que n'ignore pas.
7 ou 5 ?
Aux 5 pétales. Que n'ignore pas Monsieur Chouchani, il a le Perelman.
Alors, une remarque, il a dit un jour, les Juifs attendent le Messie. C'est un très bon mensonge, parce que c'est le Messie qui attend les Juifs. Alors, peut-être que Chouchani en a eu marre d'attendre qu'on le comprenne.
Chouchani, finalement, était un personnage, à mon sens, hein, qui était très seul, qui était sans doute malheureux, d'une intelligence qu'on ne comprenait pas, qui était de nulle part ou de partout, qui était ici et ailleurs, qui n'avait aucune attache. Et il était quelqu'un, finalement, encore une fois, de très seul. Alors, malheureux, je ne sais pas, hein, parce qu'il a vécu la vie qu'il a voulu, mais en regard des enseignements qu'il a donnés, on a quand même des choses qui nous sont parvenues, même s'il n'a pas écrit. Alors ces cahiers, encore une fois, hein, c'est pas des cahiers où il donne des enseignements, c'est des cahiers où est retranscrit la pensée qu'il avait dans la tête à un moment précis. Mais il y a quand même des enseignements qui nous sont parvenus, des enseignements qu'on peut garder dans la vie du quotidien, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qu'on ne sait pas, que rien n'est jamais fini, qu'il faut sans arrêt chercher cet au-delà, c'est l'au-delà de versets dont parlait Emmanuel Lévinas, qu'il faut souffler sur les braises pour découvrir des vérités du monde, et que finalement, eh bien, les textes de la tradition juive et cette éthique, cette sagesse juive, n'intéressent pas que le monde juif, mais est un message pour l'humanité en son entier. Et Chouchani est fascinant pour tout cela aussi, pas seulement pour sa légendaire personnalité, mais pour les enseignements qu'il a pu laisser.
Vous avez pratiquement répondu à la dernière question, mais si vous aviez envie de donner envie à nos auditeurs de lire Fascinant Chouchani, que leur diriez-vous ?
Alors que Chouchani, finalement, sa légende l'a desservi pour entrer dans les études juives, parce qu'il est vu comme un personnage marginal. Ce que j'essaye de faire, c'est de démontrer qu'il a joué un rôle important, cardinal, dans le renouveau de la pensée juive à la libération, et qu'en connaissant sa vraie identité, on connaît les raisons de ses enseignements. Alors il reste un personnage fascinant et peut-être qu'on découvrira d'autres choses, mais Chouchani était un homme peut-être trop humain.
Fascinant, Chouchani, c'est aux éditions Hermann et c'est signé Sandrine Schwartz. Merci d'avoir été avec nous du côté de chez Schwartz, Sandrine.
Merci Pierre.